Voilà, bonsoir à tout le monde. Je suis content de vous revoir. Comme chaque semaine, désormais, les visages deviennent plus reconnaissables. Voilà. Vous n'avez qu'un
Bonjour.
visage à regarder, c'est-à-dire par rapport à moi, mais moi j'en ai beaucoup. Donc il faut que je prenne contact avec tout le monde. Et voilà. Donc nous allons continuer notre parcours sur les sacrements de l'initiation chrétienne. Je suis sûr que désormais, si on vous demande, mais qu'est-ce que c'est l'initiation chrétienne, les sacrements d'initiation chrétienne, vous direz, ils sont trois: baptême, confirmation, Eucharistie. Jusque-là, c'est pas trop difficile, hein. Et donc, vous vous rappelez, nous étions la dernière fois dans le volet historique, donc le volet qui permet d'apercevoir l'évolution des sacrements. Et pour les sacrements de l'initiation chrétienne, cette dimension historique est assez importante. Vous comprendrez mieux ce soir pourquoi. Et dans la mesure où nous allons comprendre où va aboutir cette évolution, nous allons saisir à la fois le comment nous héritons d'une manière de célébrer l'initiation chrétienne, notamment dans la relation entre les trois sacrements de l'initiation, entre baptême, confirmation et Eucharistie, mais aussi dans la manière de les penser du point de vue ministériel, c'est-à-dire qui sont les ministres de ces sacrements, et aussi du point de vue théologique, c'est-à-dire qu'est-ce qui se passe si, par exemple, plutôt que de garder l'ordre avec lesquels nous les appelons jusqu'à maintenant, baptême, confirmation, Eucharistie, qu'est-ce qui se passe si, par exemple, on va avoir un ordre du type baptême, Eucharistie, confirmation? Vous voyez, c'est différent. Ou bien encore, qu'est-ce qui se passe si on éloigne la confirmation du baptême? Voyez, est-ce que ça a un sens? Quel peut être le sens? Alors, toutes ces questions sont importantes, naturellement, pour nous aujourd'hui. Importantes, oui, elles nous interrogent du point de vue pastoral et du point de vue théologique. Et les choix pastoraux qu'on peut faire dans la mise en œuvre des trois sacrements de l'initiation peuvent être décisifs pour comprendre la raison même d'être chrétien. Et puis, voilà, d'initier dans un monde comme le nôtre qui est, comme on dit, postmoderne et qui recherche des voies multiples pour rencontrer Dieu. Voilà. C'est un peu ça la problématique de cette manière que la problématique du cours continue. Et je voudrais tout d'abord faire le point de ce que nous avons fait pour vous faire comme une sorte d'arrêt sur image, pour qu'on puisse recommencer et terminer l'évolution historique jusqu'à maintenant, et de là, commencer dès ce soir à regarder de plus près le rituel de l'initiation chrétienne des adultes. Nous aurons trois, en vérité, trois rituels que nous regarderons, mais pas tous ce soir. Un ce soir, qui est extrêmement important, nous le verrons. Et les deux autres, le rituel du baptême des petits-enfants et le rituel de la confirmation, nous le considérerons plutôt la prochaine fois en tuilage avec l'Eucharistie, hein, en sachant que de toute manière, et c'est très important, qu'on soit adulte, qu'on soit enfant, qu'on soit appelé à la confirmation ou qu'on demande la confirmation, l'Eucharistie reste théologiquement l'horizon et l'achèvement de l'initiation. Je vous rappelle quelque chose d'important, peut-être que nous oublions. Rappelons-nous que baptême et confirmation, on le reçoit une fois dans la vie, on ne le répète pas, alors que l'Eucharistie, nous la recevons autant que nous le voulons, sans en abuser au moins une fois par semaine, le dimanche, ou si on ne peut pas une fois par semaine, au moins de temps en temps dans l'année. Voilà. Donc, c'est très important de. On peut déjà se demander pourquoi, du coup, on termine par l'Eucharistie. C'est peut-être parce que l'Eucharistie, dans la célébration de l'Eucharistie, on fait expérience et on entretient la grâce baptismale et donc qui a été donnée par le sacrement du baptême et de la confirmation. Mais ça peut être aussi parce que, effectivement, l'Eucharistie est le sacrement qui nous fait vivre en tant que chrétiens, en tant que baptisés, et nous réunit en tant que corps ecclésial. Voilà. Donc, qu'est-ce qui se passe? Nous le verrons. Nous allons nous interroger. Vous pouvez aussi apporter vos expériences pastorales. Qu'est-ce qui se passe si on termine sur la confirmation, qui est un sacrement qu'on ne réitère pas? C'est comme si on fermait un rideau, vous voyez. Alors, c'est peut-être, ça questionne. Alors, peut-être qu'il faut penser la confirmation autrement que de la manière dont nous la pensons habituellement. Voilà. Et donc, premier moment du cours, je vais reprendre quelques idées essentielles pour que ce que j'appelle l'arrêt sur image. Nous allons regarder l'expérience baptismale dans le Nouveau Testament et au début de l'Église ancienne, les deux premiers siècles. Nous n'avons pas continué les autres textes qui, vous verrez, je vous résumerai brièvement ce que les autres textes pouvaient dire, mais vous avez eu la possibilité de les lire, j'imagine. Alors, je reprends. Le Nouveau Testament nous a montré que deux moments fondamentaux structuraient l'initiation ou l'entrée en christianisme. Premier moment, prédication. On annonce le Christ ressuscité. Donc, il y a un moment où on reçoit le message de la bonne nouvelle. Deuxième moment, on demande à ceux qui écoutent et qui, comment on pourrait dire ça, sont touchés par cette prédication, s'interrogent, sont questionnés par cette prédication, on leur demande de se convertir et de marquer corporellement, par un signe corporel, qui est l'immersion baptismale, l'adhésion à ce qu'ils ont entendu, l'adhésion au Christ, à l'adhésion au message du Christ. Et l'immersion, ou bien nous avons vu parfois l'imposition des mains, ce sont deux gestes qui peuvent être ensemble ou des gestes dont on en choisit seulement un. Eh bien, ce geste devient celle, l'introduction, l'initiation, l'adhésion à la foi chrétienne, au Christ lui-même. Hein. Pensons toujours la foi pas comme un contenu, mais comme une relation. Comme une relation. C'est pas connaître l'Évangile, mais vivre de l'Évangile. C'est ça qu'on demande, au moins dans les premiers siècles du christianisme, mais je pense que c'est aussi le cas qui est le nôtre. Ces deux pôles fondamentaux, vous vous rappelez, le but, c'est le don de l'esprit, c'est pour vivre de la vie de l'esprit. Et donc ces pôles-là, enseignement, geste baptismal, vie dans l'esprit, va être, comme on pourrait dire, proposé, va se poursuivre dans les siècles suivants en simplifiant, c'est-à-dire il va y avoir complexité de ces moments-là. Les deux textes que nous avions lus de la Didaché et de Justin étaient assez simples en fin de compte. On retrouvait l'enseignement, comme il l'appelait, le geste baptismal accompagné d'une parole venant du Christ lui-même, hein, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et ces textes nous avaient appris, on avait terminé par ça, entre autres la dernière fois, nous ont appris aussi qu'il y avait le candidat au ce signe baptismal était initié à vivre ou à vivre du jeûne et de la prière. Donc, on leur apprenait à jeûner et à prier, nous dit Justin. Donc, et à ce jeûne et à sa prière, la communauté tout entière participait. Nous avons le troisième pôle très important de l'initiation en christianisme, c'est-à-dire le pôle enseignement, le pôle geste baptismal et le pôle entre les deux, préparation ascétique, corporelle, pour pouvoir accéder, se préparer, être en mesure de aller au baptême, vivre du baptême. Eh bien, ces pôles vont s'amplifier encore plus, je le disais au tout premier cours, au IVe siècle, quand l'Église va avoir la possibilité de célébrer plus amplement son culte de manière publique dans des églises et des baptistères, n'oublions pas. Donc, on construit des bâtiments exprès pour le moment baptismal. Et donc, le moment de catéchèse et de préparation ascétique va s'étaler désormais sur toute une longue période, qui est la période du carême, au IVe siècle. Au cours de cette période, on va avoir une alternance, j'y reviendrai, donc ne vous inquiétez pas. On va avoir une alternance d'enseignement, de catéchèse, enseignement ou catéchèse, et d'exorcisme, c'est-à-dire de gestes, de demandes, de prières, qui à l'époque demandaient justement de libérer le catéchumène des forces du mal. Alors, je vous invite déjà, dès maintenant, parce que nous retrouverons ce mot aussi dans le rituel actuel, quand on dit exorcisme au pluriel, ne pensez pas au film L'Exorciste, ça n'a rien à voir. Donc, ce n'est pas ça, ce n'est pas pour faire peur, encore que certaines prédications du IVe siècle donnent l'impression qu'il fallait un peu impressionner les catéchumènes, mais c'est penser plutôt ce moment comme un moment de préparation ascétique qui met en valeur ou qui essaye de rendre conscient celui qui va recevoir le baptême, que la vie chrétienne, en fin de compte, est une lutte, est un combat. Ce n'est pas de tout repos d'être chrétien. Pour être chrétien, il faut faire des choix. Ça, encore aujourd'hui, on le sait, le christianisme propose des voies ou des choix qui ne sont pas partagés par la plupart. Donc, il faut... Et il me semble, les exorcismes sont à comprendre en ce sens-là. C'est-à-dire, nous sommes tout le temps tiraillés, attirés par des désirs, des passions, des moments parfois de domination sur les autres, qui parfois demandent d'être... canalisé, d'être purifié, voilà. Les exorcismes, c'était un peu ça, même s'ils avaient un aspect plus cru au IVe, au Ve siècle, beaucoup plus impressionnant, justement. Et donc, première partie pendant le carême, dans laquelle on initie les catéchumènes au commentaire des Écritures, donc on apprend l'Écriture, on apprend le credo, on apprend le Notre Père, donc vous voyez à nouveau, parole de Dieu, foi, prière. Donc il faut que les catéchumènes étaient censés apprendre par cœur le credo, apprendre par cœur le Notre Père. Et à la fin du carême, ces catéchumènes-là, et devait effectivement s'approcher du baptême et donc était baptisé dans la même veillée pascale et seulement à Pâques, baptême, onction, j'aime bien garder l'expression de onction baptismale, très liée au baptême, hein. C'est-à-dire que dès qu'ils étaient immergés et ils sortaient de la piscine baptismale, ils étaient oints. Et puis, Eucharistie. Donc, il y avait ces trois sacrements qui étaient réunis dans une seule séance baptismale. Il ne faut pas oublier qu'au 4e, au 5e siècle, on pouvait avoir dans une ville comme Jérusalem ou comme Milan, il pouvait y avoir 400, 500 catéchumènes. Il faut penser qu'on baptisait qu'une fois par an. Et donc, tous étaient des adultes venant du paganisme généralement et se convertissant au christianisme. Donc voilà pourquoi je voulais arriver à cette structure que je viens de vous décrire, parce que c'est à cette dynamique d'initiation que vont faire référence ceux qui vont rédiger le rituel de l'initiation chrétienne des adultes après le Concile Vatican II. Donc, cette expérience ecclésiale du 4e, 5e siècle va être le modèle qui inspire la rédaction du rituel de l'initiation chrétienne des adultes. Ou pour la dire autrement, quand nous regarderons le rituel de plus près, vous reconnaîtrez dans la structure du rituel et de l'initiation que le rituel propose, la même structure du 4e et 5e siècle, même si les questions sont très différentes que les nôtres par rapport au 4e et 5e siècle. Qu'est-ce qui se passe à partir du 6e siècle? Je vais vous le montrer rapidement à travers un tableau que je vais partager tout de suite, et nous allons, comme dans la machine du temps, passer du 4e siècle jusqu'à aujourd'hui, donc assez rapidement, en peu de temps. Donc, je vais partager l'écran. Alors là, il est grisé. Voilà. Est-ce que vous le voyez, ce tableau? Il est visible? Tout le monde le voit.
Oui.
Voilà.
Oui.
Vous l'aviez aussi, on l'avait mis à disposition. Hein, donc, vous pourriez à la limite le relire. Hein. Et donc, je vais vous montrer pourquoi nous héritons de cette tradition et qu'est-ce que cela provoque dans l'évolution de l'initiation. Alors, vous voyez dans la colonne de gauche, celle que je suis en train de souligner, il y a les périodes historiques. Elles vont du 1er siècle en 1970, c'est-à-dire après le Concile Vatican II, quand on met en œuvre le rituel de l'initiation chrétienne, ou les rituels de l'initiation chrétienne, je vous préciserai pourquoi je les nomme au pluriel, mais vous pouvez déjà deviner. Eh bien, je ne reviens pas au 4e siècle, vous voyez, il y a une entrée en catéchuménat qui se fait au début du carême, le baptême advient à Pâques, baptême, confirmation, Eucharistie, et voilà, tel que je vous l'ai décrit. Mais à partir du 5e jusqu'au 12e siècle, qu'est-ce qui se passe? Il y a des pratiques d'initiation qui se distinguent, qu'on peut distinguer entre la ville et la campagne. Alors, dans la ville ou dans les villes, on garde la ville là où, j'insiste, réside l'évêque. Les évêques réside dans les villes. Alors, probablement vous le savez, mais je vais vous donner un petit renseignement pour comprendre. Chaque ville a une cathédrale, et le mot cathédrale vient du mot cathèdre, qui est le siège dans lequel s'assoit l'évêque quand il est dans son église, dans sa cathédrale. Et le bâtiment dans lequel il y a la cathèdre de l'évêque, ça s'appelle cathédrale, voilà. Et donc, l'évêque réside dans sa cathédrale et l'initiation, vous voyez, ça ne change pas par rapport à ce qui précédait. Elle advient au cours de la veillée pascale, baptême, confirmation eucharistique est donné par l'évêque. Par contre, qu'est-ce qui se passe dans les campagnes? Pourquoi les campagnes? Parce que le christianisme se propage comme une sorte de force centrifuge des villes vers l'extérieur, vers les campagnes. Et donc, les campagnes sont éloignées de la ville, et les gens qui vivent à la campagne, comment ils sont initiés? Ils reçoivent le baptême et la première communion ou la communion sans attendre Pâques, et baptême et communion sont donnés par le prêtre, par le presbytre. Mais ces gens-là attendent le passage de l'évêque quand il fait la visite des campagnes ou quand il va visiter les villages dans les campagnes. Et c'est à ce moment-là qu'ils reçoivent la confirmation. Alors, je dis toujours, pensez, je vous renvoie là à la figure qui nous est tout à fait connu de Saint Martin de Tours. Saint Martin de Tours, quand vous le pensez, si vous le pensez du point de vue d'une photographie, vous le pensez à cheval. À cheval, pas seulement il partage le manteau pour le pauvre, mais en plus, c'est un moine évangélisateur. Hein, et donc, les évêques sont un peu comme Saint Martin. Ils sont à cheval, ils vont de village à village, et quand ils trouvent des gens à confirmer, ils sortent leur fiole de Saint-Crème et ils soignent ceux qui doivent être encore confirmés. Alors, ça pourrait paraître une anecdote, avoir une dimension un peu iconographique ou iconique. Ce n'est pas que ça. Je vous fais remarquer une chose, très rapidement. Vous le voyez que d'emblée, cette manière de faire, qu'est-ce qu'elle provoque? Elle provoque le fait que le baptême n'est plus lié à la confirmation, ou disons, il y a un sas de temps qui se passe entre le baptême et l'onction après le baptême, et que le lien se fait plutôt entre baptême et communion. Et donc, bien sûr, du point de vue peut-être de la théologie, et de la pratique, on pense encore qu'on n'a pas fini l'initiation tant qu'on n'a pas reçu la confirmation. Mais qu'est-ce que provoque cette division? Provoque un éloignement de ces sacrements et provoque une sorte de désordre des sacrements. J'ajoute une chose en plus, que désormais la confirmation, comme elle a été toujours quand même, hein, est liée à l'évêque, surtout en Occident, ce qui fait que ça complique les affaires, c'est que tant qu'il n'y a pas la présence de l'évêque, on ne peut pas confirmer. C'est différent, je vous le dis tout de suite, c'est différent dans les traditions orientales. L'Orient chrétien, là nous sommes en Occident, hein, dans les pays, dans les contrées de l'Orient chrétien, on met en œuvre un autre type de perception de cette mise en œuvre des sacrements. On considère que ce qui fait le lien à l'évêque, ce n'est pas tellement le fait que l'évêque doit être présent, mais le fait qu'il faille, comme on l'a toujours fait, utiliser, employer le Saint-Crème, qui, lui, cette huile-là, a été consacrée par l'évêque. Et donc, pour les orientaux, il n'est pas tellement important que l'évêque soit là ou non. Il est important que le prêtre qui fait l'initiation emploie, comme il se doit, l'huile, le Saint-Crème, et c'est ce Saint-Crème qui fait le lien à l'évêque. Cet après-midi, on m'a demandé pourquoi le Saint-Crème ou la confirmation est liée à l'évêque. Ça, qu'on se soit en Orient, en Occident, hein, tout simplement pour la raison, hein, simple que l'évêque est celui qui préside à une église locale et depuis toujours, je dirais, a été celui qui gouverne cette Église, qui assure l'unité de cette Église et qui est responsable donc de l'initiation de ceux qui deviennent chrétiens, vous voyez. Donc c'est lui, quelque part, qui, à travers le geste de confirmation, marque ce lien à l'Église locale. Mais donc, j'y reviendrai, mais vous comprenez bien que cet éloignement, cette dislocation, je dirais, des sacrements à des époques différentes de la vie, conduit à justifier le pourquoi de la confirmation à un moment donné. J'y reviendrai, ou vous me le rappellerez tout à l'heure. Mais je continue le voyage dans l'histoire. Cet écart se fait de plus en plus dans la vie. Parce que, vous voyez, du XIIIe au XVIIe siècle, au XVIIe siècle, on aura la succession baptême, confirmation et première communion. Mais vous voyez, baptême, c'est désormais les baptêmes sont donnés à des petits-enfants, à des nouveau-nés. La confirmation va avoir lieu vers 7 ans, donc très éloigné du moment initial du geste baptismal, et la première communion entre 10 et 14 ans, à l'initiative des parents qui amènent les enfants à la première communion. Par contre, l'époque successive, c'est-à-dire 1640-1750, pourquoi ces dates précises? Ce sont les dates de l'après-concile de Trente. Et donc, c'est la mise en œuvre de l'initiation, ils ne s'appelaient pas comme ça, mais de la pratique sacramentelle, voilà, c'est plus juste, de l'après-Trente. Je vous le rappelle une fois de plus, c'est Trente qui décide qu'il y a 7 sacrements, qu'il y a baptême, confirmation, Eucharistie et les autres qu'on a nommés et qu'on va voir ensemble. Et donc, c'est Trente qui va inventer le catéchisme contre Luther, qui lui, le premier, a pensé à un catéchisme. Et donc, on aura baptême dans l'initiation après Trente, confirmation à 7-10 ans. C'est là qu'on va avoir un catéchisme à partir de la préparation à la confirmation et de la première communion. On va voir, vous voyez, le sacrement de confession va apparaître dans le système d'initiation. On va mettre la confession parce qu'on ne peut pas communier si on n'est pas confessé, selon la tradition catholique. On y reviendra. Ne retenez pas ça comme de l'or coulé. Je vous inviterai à réfléchir sur cela plus tard. Et puis donc, on donne la première communion. Mais vous voyez, l'initiative n'est plus celle des parents. L'initiative est celle du curé. L'initiative est celle du curé, qui désormais devient pas le responsable, oui, mais celui qui initie les enfants dans une paroisse donnée. Voilà. Ce n'est pas le curé qui confirme, attention, mais celui qui est censé baptiser, est censé donner le catéchisme, est censé confesser, est censé donner la première communion. La confirmation est toujours, toujours réservée à l'évêque. Puis après, entre 1750 et 1910, on aura donc à nouveau, vous voyez, en gros, le même cas de déroulement de l'initiation. Simplement, la confession va passer avant même la confirmation, et la confirmation se rapproche, si je peux dire, de la première communion, de la communion solennelle, toujours dans les mêmes âges qu'on voit là, qui restent. Par contre, 1910-1970, jusqu'au Concile Vatican II, à partir de 1910 jusqu'au Concile Vatican II, on va voir sur l'invitation du pape Pie X, qui demande que les enfants reçoivent la communion le plus tôt possible, qu'on permette aux enfants de communier le plus tôt possible, on va voir un certain désordre. Vous le voyez? Pourquoi? Parce qu'on va voir le baptême, la première confession et la première communion, donc l'Eucharistie passe avant la confirmation, et on termine par la communion solennelle et la confirmation. Je vous fais remarquer que la communion se fait très tôt, à 6 ou 7 ans. Et donc, voilà. Et la catéchèse se situe entre la, dans cette période avant la première communion et se prolonge vers la confirmation. À partir, après le Concile Vatican II, le Concile Vatican II va prendre acte d'un changement épocal, d'un changement sociologique. Il y a deux situations qui rendent attentive notre Église. D'une part, les missionnaires qui sont dans les pays de mission font remarquer à Rome qu'ils sont confrontés avec le baptême de personnes adultes, n'est-ce pas? Et dans les pays d'Europe, on voit monter une demande de baptême à partir de conversions assez importantes, justement dans les pays européens. En France, par exemple, je vous cite quelques personnages que vous connaissez sûrement, Paul Claudel, hein, ou Jacques Maritain, ou encore Charles de Foucault lui-même, hein, sont tous des personnes qui redécouvrent la foi en tant qu'adultes, mais il n'y a pas que, on verra que pas mal de personnes adultes demandent le baptême en étant adultes, ou veulent se convertir au christianisme en étant adultes. Et donc, on va réfléchir sur la manière de célébrer ou d'initier ces personnes adultes, et on rédige un rituel que nous allons regarder de près, qui, vous voyez, si je vous remonte en haut, respecte exactement les mêmes dimensions qu'on a vues tout au début. On a une entrée en catéchuménat en carême, on aura l'initiation par l'immersion baptismale, la confirmation de l'Eucharistie la nuit de Pâques ou à Pâques, et voilà comment on initie les adultes. Mais on tient compte des enfants qui sont encore majoritaires, malgré qu'il y ait des adultes qui demandent le baptême, encore aujourd'hui. Hein, il y a beaucoup de catéchumènes adultes, mais il y a aussi plus encore, pour le moment, de baptême pour petits-enfants. Mais pour les enfants, donc du coup, on propose un baptême dès leur naissance ou avec un délai. On ne demande pas que soit si près le baptême pour un petit enfant. Vers 6 ou 9 ans, on leur propose de faire la première confession et la première communion. Il y a une catéchèse, la profession de foi et la confirmation. Vous voyez donc, là à nouveau, quelque part, on reprend le modèle qui précédait le Concile Vatican II, mais généralement, je dis ça, puis dans certains diocèses, je pense aux diocèses de Dijon, par exemple, à Dijon, ils ont pris parti, même pour des enfants, de ne pas faire la communion là, mais de faire la confirmation là. Vous voyez ? Et de repousser la communion plus tard, ou tout de suite après, vous voyez. Mais ce sont des choix pastoraux d'évêques précis et des diocèses précises. On a souvent beaucoup de cas de figure qu'on rappellera tout à l'heure. Donc voilà, je voudrais conclure cette vision et après vous laisser la parole parce que sûrement ça doit provoquer des questions et vous pouvez réagir pour me faire préciser certaines choses. Mais sachez que du coup, il y a désormais dans la théologie catholique une sorte de tiraillement entre le fait de comprendre l'initiation comme étant justement l'initiation qui se fait par le baptême, la confirmation, l'Eucharistie, dans la manière dont je disais tout au début, mais il y a des pratiques pastorales qui gardent encore la mémoire d'une ou de pratiques même qui font célébrer, par exemple, la communion avant la confirmation. Et on peut se demander si théologiquement peut avoir un sens et quel peut être le sens. Et si les pratiques résistent, comment on peut les, comment on peut dire, conduire à une perception de l'initiation de manière beaucoup plus théologiquement plus approfondie. Je termine le partage de l'écran et je vous laisse la parole. N'hésitez pas à m'interroger s'il y a des choses qui ne sont pas perceptibles, parce que là, du coup, nous allons commencer les rituels en tant que tels.
Alors moi, j'ai mis trois réflexions dans les, dans les discussions.
Ah, voilà. Ah, attendez. Alors, Alors, Albert dit ceci, vous le voyez vous-même, hein. L'Eucharistie est un des sacrements de l'initiation, sacrement que l'on reçoit régulièrement en principe. L'initiation se poursuit ainsi. Oui, c'est tout à fait ça, hein. Et donc, l'Eucharistie, entendu dans cet ordre-là, je dirais paradoxalement, confirme l'initiation. Hein. Alors, je le disais cet après-midi, et le rituel nous le montrera, l'initiation n'est pas un aboutissement. Vous voyez, la réception des sacrements n'est pas un aboutissement, ce n'est pas un examen final. Hein? Ce n'est pas parce qu'on a été baptisé. Souvent, les gens ont une expression très sympathique. Ils disent « Oui, oui, mon enfant, il a tout fait. Hein? Il a tout fait. » Non, en vérité, on n'a pas tout fait. C'est-à-dire, on ne fait que commencer, en vérité. Hein? C'est-à-dire, en recevant les sacrements du baptême, de la confirmation, on ne fait que commencer à devenir chrétien. Et nous n'avons jamais terminé de devenir chrétien. Et donc, effectivement, l'Eucharistie permet de poursuivre l'initiation, à la fois la mémoire, et une mémoire, j'aime bien dire, de l'appeler la mémoire du baptême, hein, et en même temps, elle entretient cette initiation. Alors, l'évêque, en tant que successeur des apôtres, administre le baptême et la confirmation, valide l'initiation et l'accueil de nouveaux chrétiens dans la communauté ecclésiale. Oui, et je dirais, j'ajouterais, il n'est pas que ça. L'évêque est vraiment le garant de l'initiation dans une église locale. Et celui, vous le verrez, le premier responsable de l'initiation est l'évêque. Nous verrons après coup dans le rituel que... il est considéré tel, mais le rituel ne commence pas tellement de l'évêque, il commence de la communauté, de l'Église, donc de baptiser, pour dire la responsabilité de l'initiation. Elle arrivera après à l'évêque. Mais il est clair, alors, oui, en tant que successeur des apôtres, mais surtout en tant que celui qui est garant de l'unité de l'Église locale, et donc celui qui veille. Ce n'est pas par hasard, nous le verrons, que c'est l'évêque qui doit appeler les catéchumènes, qui doit choisir les catéchumènes pour qu'ils soient baptisés. Donc on y reviendra. C'est à lui qui revient la charge de, sous conseil des accompagnateurs des catéchumènes, de dire oui, il peut accéder au baptême. Et puis donc, Albert continue à nous rappelant, pour ma part, j'ai été baptisé à 8 jours, première communion à 8 ans, et confirmation à 11 ans. Voilà, profession, voilà, tout à fait. C'est tout à fait un chemin classique, hein, que nous avons vécu. Je pense que la plupart d'entre nous ici, au moins qu'il y ait d'autres cas précis. Moi, j'ai eu la chance, personnellement, j'étais l'enfant entre l'avant-concile et le pendant-concile, donc du coup, j'étais dans ces années-là, et j'étais baptisé tout petit, mais après, je ne sais pas comment ça s'est fait, j'ai pu faire la confirmation et la communion le même jour. Donc du coup, mais sans me rendre compte de l'ordre des sacrements, des choses que je vous raconte ce soir. Voilà. Donc, tout cela est important. Est-ce qu'il y aurait d'autres réactions ? Ou perception.
Ouais. J'avais une question sur la profession de foi, qui n'est pas un sacrement,
oui.
Que j'ai vécu et qui apparaît bien aussi dans votre tableau.
Oui.
Alors, où on dit quelquefois, c'est la communion solennelle. Est-ce que vous
Oui.
pouvez nous dire quelque chose sur...
Oui, parce que justement, il venait quelque part, il essayait de combler le vide laissé par ou par une communion reçue trop tôt, voyez. Et donc, pour donner la possibilité à l'enfant qui avait reçu la première communion à 6 ou 7 ans, le tableau le montrait un peu à ce moment-là, on établissait une communion solennelle publique, assez importante, pour laquelle on montrait que l'enfant adhérait à cette première communion qu'il avait reçue. Donc, on donnait beaucoup plus d'emphase, je dirais, à la communion solennelle qu'à la première communion qui était plutôt, je ne dis pas intime et réservée, mais qui était moins marquée que l'autre. Hein, voilà. Cette pratique, me semble-t-il, est presque propre à la France. Hein. On ne la connaît pas en Italie, par exemple. Mais on n'a jamais connu la communion solennelle. On a plutôt marqué la confirmation comme étant un peu le moment qui confirme, qui montre la liberté du garçon, de l'adolescent, pour confirmer son initiation par le baptême et la première communion. Je ne sais pas si j'ai répondu. Quitter consent, donc.
J'ai une question.
Alors, ça vient de qui cette question?
Voilà,
Ah oui, voilà.
on s'est occupé de Florence.
Laurence.
On s'est occupé de préparation à la confirmation
Oui.
dans le cadre de l'aumônerie.
Oui.
Et quand on a commencé, il y a déjà longtemps de ça, la confirmation avait lieu avec des jeunes qui étaient en seconde. Et
Vous
puis
pouvez
les
me dire l'âge, parce
voilà.
que j'ai toujours difficulté dans ma culture italienne de
Alors, à
comprendre que
15
c'est
ans, à
à
15,
15 ans. Très
16 ans,
bien.
16 ans. Et au cours de ces années, la confirmation est redescendue en classe de troisième. Alors, pour nous, les animateurs, c'était compliqué parce que les secondes étaient déjà plus mûres, faisaient vraiment leur confirmation après une véritable réflexion. Les élèves de troisième étaient un petit peu plus jeunes dans leur esprit. Et quand on en avait parlé aux prêtres, aux aumôniers, la réponse était souvent oui, mais après, on a peur qu'en seconde, ils n'aient plus envie de se faire confirmer alors qu'ils faisaient tout avant la fin du collège.
C'est
Voilà.
intéressant cette expérience. Merci Florence, qui ouvre à beaucoup de réflexions auxquelles je voudrais vous inviter. N'hésitez pas à intervenir. Ce que je dis, c'est pas tout à fait. C'est des suggestions. Donc voilà. On en a parlé aussi cet après-midi. Hein, cette question de la confirmation. Bon, d'abord, la réflexion du prêtre est lamentable. Je dirais, excusez-moi de dire ça. Parce qu'on tient en otage des personnes par les sacrements, c'est affreux à y penser, je veux dire. Il n'y a pas de liberté là. Disons, ça frôle presque la simonie, même s'il n'y a pas d'argent, vous voyez, parce qu'il faut faire payer par des sacrements. Voilà. Donc, je pense que ce n'est pas comme ça qu'il faut réfléchir. Naturellement, la réception des sacrements et l'expérience des sacrements devrait plutôt ouvrir à une réflexion sur la grâce de Dieu. Les sacrements ne sont pas là pour valider quelque chose, vous voyez, ne sont pas là pour faire, comment on peut dire ça, pour remplir nos églises ou nos communautés chrétiennes. C'est pas, on ne va pas se compter tout le temps, vous voyez. Il ne faut pas être beaucoup, il faut être vrai, il faut être un vrai chrétien. Même si on est trois, ce n'est pas un problème, nous a dit Jésus. Hein. Deux ou trois, il l'a même dit. Mais ce que je veux dire, c'est que nous pensons toujours les sacrements en vue de ce qu'ils nous apportent. Naturellement, ce n'est pas de l'argent là. Encore que, attention, parfois, je ne suis pas sûr qu'on soit aussi pur dans la manière dont on propose les sacrements. Mais votre question pose une autre question fondamentale dont on a discuté cet après-midi, celui de la grâce que Dieu donne et l'adhésion à cette grâce. la liberté que j'ai d'adhérer à cette grâce. Vous voyez, c'est une question théologique fondamentale. Et alors, nous, en Occident, après, nous pouvons discuter. Je vous rends attentif à ça. En Occident, par cette question de la dislocation des sacrements et du sacrement lié à l'évêque, on a plutôt insisté sur l'aspect très volontariste du sacrement. C'est moi qui choisis le sacrement. Il faut que je sois absolument conscient de ma confirmation, par exemple. Vous voyez ? Ce qui déplace complètement le sacrement vers une décision personnelle. Alors, je m'interroge, où va-t-elle la grâce de Dieu ? Où est-elle la grâce de Dieu qui est gratuite, qui nous précède, qui nous suit, qui nous déplace tout le temps. Si tout le temps nous pensons les sacrements comme une chose pour laquelle je dois être complètement conscient, on n'est jamais prêt à recevoir les sacrements. Vous voyez ? Je ne sais pas si vous faites cette expérience. On n'est jamais prêt à se marier, on n'est jamais prêt à être moine ou à faire la profession monastique, on n'est jamais prêt à se confesser, on n'est jamais prêt. Vous voyez, on n'est jamais prêt à recevoir la grâce de Dieu. Elle est trop grande. Et donc, tout l'équilibre à tenir est entre un sacrement qui rend attentif que cela est gratuit, que je ne dois rien payer, même ne fût-ce que d'apprendre le catéchisme, et que, comment dire, et qu'en même temps, je dois y adhérer. C'est sûr que ça reste. Et que je dois dire oui, que ce n'est pas imposé, que ce n'est pas une magie. Vous voyez ? Alors, pour comprendre cela, je vais vous donner un exemple tout à fait qui vous fait voyager dans une autre confession chrétienne. Je pense aux orthodoxes. Les orthodoxes, qu'est-ce qu'ils font ? Le monde orthodoxe, généralement, la plupart du temps, baptise ou confirme, même s'ils n'emploient pas le mot confirmation, et Eucharistie, font participer à l'Eucharistie, le bébé, le nouveau-né. Alors, on est toujours un peu effrayé, mais c'est tout simple. C'est-à-dire qu'un bébé, on le plonge dans l'eau, en sortant, on le oint, on lui fait téter avec le doigt le sang du Christ. Voilà. Donc, il est initié bébé. Ça ne veut pas dire qu'on ne leur permet pas de choisir. Parce qu'ils vont, peu à peu qu'ils grandissent, arriver vers l'âge de raison. Et c'est vers 7 ans, me disait un prêtre orthodoxe, qu'on leur propose, quand ils ont la conscience du péché ou des choses qui ne vont pas, de vivre la confession, voyez, la réconciliation. Et de là, ils poursuivent leur vie chrétienne. Ce modèle-là, alors je dis pas il faut faire comme ça, mais vous voyez, raisonne autrement. Il y a d'abord la grâce qui t'est donnée, et puis tu fructifies cette grâce, ou tu la fructifies pas, tu es libre de ne pas continuer. Voilà. Donc, vous voyez, votre question, Florence, ouvre à des questions profondes. Alors, peut-être, et vous savez pourquoi on a chargé de manière aussi importante la confirmation? Parce que justement, elle s'éloignait du baptême. Vous voyez? Puisque le baptême, on n'en a pas conscience, on a reçu tout petit, on va charger la confirmation de tout ce qui est le choix, le témoignage, tout ce qui... À un moment, je pense qu'à un moment, les adolescents, quand ils ont fini, ils se disent « c'est fini, je ne reviens jamais plus ». Je ne dis pas « c'est pas tout le temps comme ça », mais c'est assez impressionnant. On charge les épaules d'un adolescent de quelque chose d'extrêmement important. Voilà. Donc, il y a des enjeux profonds dans nos pratiques. Donc, il faudrait trouver un équilibre. J'arrive, Albert. Il faudrait trouver un équilibre entre la grâce, le sacrement en tant que grâce et le sacrement à laquelle j'adhère, donc ma liberté et le fait que je puisse dire oui, mais surtout pas gardons-les parce que sinon après ils ne reviennent pas. C'est terrible. C'est terrible. Même Dieu nous laisse partir. Même Dieu nous laisse partir. Albert.
Oui, merci. Comment ça va, vous m'entendez?
Oui.
Oui, voilà. Ben, je crois que là, on est tombé sur un sujet qui, justement, m'intéresse beaucoup. C'est la question, quand vous évoquiez où est la grâce dans tout ça. Et je me disais que si, enfin, dans quelle mesure est-ce que par des stratégies pastorales comme celle qui a été décrite tout à l'heure, on n'exerce pas un pouvoir de façon exagérée, parce que si on commence à contraindre les gens à recevoir la confirmation, enfin un sacrement, donc effectivement, dans quelle mesure on respecte la liberté de chacun, enfin, voilà, c'est des questions fondamentales, et puis du coup, ça aussi, ça me fait penser à... Pardon. Ça me fait penser à l'art du discernement qu'un accompagnateur,
oui.
un catéchiste ou un accompagnateur dans le cadre du catéchuménat, par exemple, l'art du discernement à avoir, c'est-à-dire on propose mais on n'impose pas, donc ça, il y a une posture particulière à travailler en fait autour de ça. Donc discerner et proposer, il y a une espèce de contradiction, de tension, mais en même temps, c'est ça aussi, accompagner le Christ à appeler, mais n'a jamais contraint à le rejoindre.
Tout à fait.
Donc, et par contre, effectivement, effectivement, quand on reçoit un appel, ça, quand on reçoit une grâce, ben en fait. Il faut la laisser s'exprimer, il faut la laisser libre d'être et de s'exprimer telle qu'elle nous est donnée, en somme. Donc,
tout à fait.
N'enfermons pas la grâce, quoi.
Tout à
de
fait.
Grâce.
Tout à fait, tout à fait, tout à fait. Avant la pause, je vous partage une anecdote qui est tout à fait une chose vécue. Peut-être que je vous en parlais déjà à l'un ou l'autre cours, hein. Mais vous savez que justement, dans l'exemple que nous donnait Florence, il y a d'autres cas, par exemple, pour des baptêmes de petits-enfants, dans lesquels parfois les couples doivent presque passer un examen face au prêtre hein, qui reçoit dans les bureaux de la paroisse, ce qui est terrible. Et alors du coup, j'espère que peu à peu, les gens se convertissent. Quand je dis les gens, je dis les prêtres, se convertissent et puissent être plus souples et plus attentifs à la personne. Mais je tiens ça de Louis-Marie Chauvet, qui était donc qui enseignait la sacramentaire ici aussi, et qui était mon professeur à la Cato et qui m'a livré pour que je donne des cours ici au CIF. Il apportait ça, lui, une expérience pastorale énorme. Donc, il disait souvent, je peux arriver des couples qui ne sont pas tout à fait pratiquantes, hein, et qui sont peut-être voire loin de la foi, mais qui arrivent chez moi et qui me disent, écoutez, cher monsieur, je voudrais faire baptiser mon enfant parce que ma grand-mère nous a dit, surtout, tu feras baptiser mon petit-fils. Eh bien, Chauvet disait, mais face à une demande comme ça, je commence un chemin avec eux. Je leur permets que leur enfant soit baptisé, mais en même temps, j'essaye de leur faire comprendre pourquoi c'est important. Vous voyez? C'est-à-dire, pourquoi il dit? Parce que la grâce est déjà dans la demande du baptême. Vous voyez? Donc, c'est très important ça. Nous ne sommes pas, parfois nous nous mettons en juge, c'est terrible, hein, de la grâce que Dieu donne à des personnes qui sont touchés par la grâce, vous voyez. Alors, comme dit Albert, c'est la plus grande difficulté et l'œuvre ecclésiale la plus difficile est celle du discernement. Mais justement, c'est là que l'aventure devient intéressante, vous voyez. Pas quand on met des règles trop précises qui ferment, qui renferment la grâce, qui emboîtent la grâce. Voilà. Je vous propose, si vous êtes d'accord, de faire une pause nous nous retrouvons vers là, c'est 58, donc vers 21h05, hein, ça y est, c'est ça. Et nous attaquons, nous commençons par le rituel de l'initiation chrétienne des adultes. Mmh. Merci.
Merci.
Voilà, je sonne la cloche.
On est là.
Vous êtes là. Est-ce qu'il y aurait encore l'une ou l'autre question avant que nous commencions à regarder le rituel de l'initiation chrétienne des adultes sur ce que nous venons de dire ou de voilà.
Oui, moi j'ai peut-être une question. Je vais essayer de mettre la vidéo, mais ça ne marche pas bien.
Oui, bonsoir, c'est Marie-Madeleine Guizou.
Oui. Oui.
Moi j'aurais une question de plus de vocabulaire. Je ne sais pas trop si vous l'avez dit, mais je voudrais savoir si on parle de la même chose quand on dit communion et quand on dit Eucharistie.
Oui. Alors. Merci de poser cette question qui va nous retenir par la suite quand nous parlerons de l'Eucharistie ou de la. Voilà. En général, on dit l'Eucharistie est le terme qui on donne aujourd'hui à la célébration de la messe. Ça y est. On pourrait dire que Eucharistie et messe sont des synonymes aujourd'hui. Et pour le dire de manière plus précise. La célébration de la messe, au cours de la célébration de la messe, on rend grâce, on fait Eucharistie, vous voyez. Eucharistie veut dire rendre grâce. Mais les deux mots sont synonymes. Par contre, communion, effectivement, le terme, l'expression, le mot communion lié justement à la messe ou à l'Eucharistie, dit le moment où on accède au pain eucharistique, c'est-à-dire quand on communie au pain eucharistique, quand on reçoit le pain eucharistique, donc on reçoit la communion. On dit, c'est un terme, c'est un peu impropre, hein, mais disons qu'on reçoit la communion, voilà, en participant à la messe. Je ne sais pas si je vous ai répondu.
Oui, oui, merci.
Oui, Bruno.
Oui, alors j'aurais voulu avoir un peu des explications sur la confirmation aujourd'hui, notamment des jeunes, parce que j'ai du mal à comprendre finalement quel est son sens.
Oui.
Est-ce que c'est le lien à l'évêque finalement qui est le plus important et non pas tout ce qu'on peut dire autour de recevoir l'Esprit Saint notamment?
Oui.
Voilà, je suis un petit peu perdu actuellement.
Bien sûr, bien sûr. Alors, sachez, Bruno, et tout le monde, que nous allons prendre en compte le rituel en tant que tel, et pas cette fois-ci, mais la fois prochaine. Mais que la confirmation, on le verra tout de suite avec le baptême des petits-enfants et l'initiation chrétienne des adultes, sont les trois moments de l'initiation d'une personne dans sa vie. Donc la confirmation, il faut la penser comme un sacrement d'initiation. Ça y est. Après, sur sa signification, vous avez tout à fait saisi et vous saisissez tout à fait les enjeux. On l'a toujours chargé justement du sacrement, du témoignage, du choix, voilà, et parfois de l'Esprit Saint. Aujourd'hui, peut-être la théologie nous invite à le penser comme justement relié ou lié au baptême, hein, c'est-à-dire c'est le même esprit qui est donné au baptême et à la confirmation. Mais c'est pour ça que je voulais vous montrer l'évolution historique, à cause de cet éloignement, on a un peu perdu le sens de la confirmation, hein, qui n'est rien d'autre que celui de dire autrement la même grâce du baptême. Il est évident en même temps que la confirmation dit davantage, si je peux dire, ce lien à l'Église, au corps du Christ. Et donc les pères de l'Église, les premiers théologiens aimaient faire le jeu de mots entre chrisma, le cinquième, et Christ. Et donc c'est le même mot, hein. On est un, et en étant un, on devient d'autres Christ. Donc, c'est peut-être ça qui devrait nous faire prendre, nous devrions prendre conscience de ça. Et alors, je vous Là, si je vous livre une anecdote, je faisais une formation dans un diocèse de France que je ne vais pas nommer. Et la formation avait pour objet l'unité des sacrements de l'initiation. Et vers la fin de la formation, l'évêque était présent tous les deux jours qu'on a donné cette formation. Et l'évêque est intervenu à la fin et il a fait presque un aveu, une confession, disant: vous savez, vous m'avez fait comprendre que quand il y avait des confirmations, je prêchais toujours sur l'Esprit Saint, mais dorénavant, je prêcherai plus davantage sur l'Eucharistie. Vous voyez, c'est-à-dire, la confirmation ouvre à l'Eucharistie. Nous le verrons comment le rituel nous le dit cela, mais nous l'oublions, nous l'oublions. Et quand je dis Eucharistie, c'est ce que disait Albert tout à l'heure, c'est-à-dire, l'Eucharistie, c'est participer à la vie ecclésiale, s'unir au corps ecclésial et naturellement manifester l'unité qui vient du Christ lui-même. Mais on en reparlera, Bruno. Mais là, vous saisissez déjà les enjeux de ça.
Merci.
On continue? Et donc, je vais partager l'écran. Vous l'avez aussi reçu, ce document. Voilà, c'est le plan de ce qui va suivre. Et donc, nous rentrons dans l'autre volet du diptyque, c'est-à-dire les pratiques actuelles. Et nous allons le faire justement en rentrant en essayant de comprendre comment ce sont ces sacrements à partir des rituels eux-mêmes, c'est-à-dire à partir de la manière dont l'Église célèbre ces sacrements. Et donc, comme je vous le disais tout à l'heure, trois sacrements sont destinés à l'initiation d'un croyant. C'est le premier, c'est le rituel d'initiation chrétienne des adultes. Puis il y aura le rituel du baptême des petits-enfants et le rituel de la célébration de la confirmation. Tous ces trois rituels ont toujours comme, pas sous-titre, mais comme titre principal, rituel de l'initiation, l'initiation chrétienne. Et c'est là important, déjà vous pouvez prendre conscience que le premier est destiné à des adultes, l'autre est destiné à des petits-enfants, et le mot « enfant » dit qu'ils ne peuvent pas parler. Et le troisième est destiné, je dis généralement, mais pas tout le temps, à des jeunes adultes, voire des adultes. Donc, la confirmation. Donc, déjà ça, c'est très intéressant, nous fait prendre conscience que l'initiation advient ou est jalonnée tout au long de la vie. Et que même si ils sont célébrés en tant qu'adultes, en tant que petits-enfants ou en tant que jeunes adultes, ces sacrements ne font qu'inaugurer la vie chrétienne. Ils sont là pour commencer à faire vivre la vie chrétienne. Ils ne sont pas, j'insiste beaucoup, un aboutissement. Ce sont des commencements. Et donc, nous allons les considérer l'un après l'autre. Et il y a une volonté précise. Je vais vous expliquer pourquoi j'ai mis dans cet ordre le rituel. On aurait pu dire, on commence par celui des petits-enfants. C'est parce qu'on est d'abord petits-enfants, puis on est jeunes adultes, et puis on est adultes. Eh bien non, parce que théologiquement, la théologie catholique retient, depuis qu'on l'a rédigé, que le rituel de l'initiation chrétienne des adultes est le modèle, en tant que rituel destiné à des adultes, pour comprendre le sens de l'initiation et donc du baptême et de la confirmation de l'Eucharistie. Pourquoi il est le modèle? Parce que là, tout se joue de manière, je dirais, normale. Je vais m'expliquer ce que j'entends par normal. Ce sont des adultes qui veulent adhérer au Christ, qui veulent suivre le Christ et qui choisissent librement et qui demandent de le suivre librement et justement qui reçoivent la grâce dans une liberté. Ça y est. Vous voyez bien que la situation d'un petit enfant est plus compliquée. Nous l'avons vu tout à l'heure. Un petit enfant devra, quand il grandit, choisir lui-même. On a choisi pour lui, mais il devra choisir lui-même. Donc, ça ne peut pas être, entre guillemets, le modèle. C'est un parcours particulier d'initiation, et nous verrons comment. Et la confirmation, c'est la même chose que pour ce que nous disions pour les petits-enfants, c'est-à-dire la confirmation généralement est aujourd'hui le sacrement de ceux qui veulent achever leur initiation ou veulent terminer leur initiation, prennent conscience qu'ils avaient été baptisés petits-enfants et donc ils veulent confirmer cette... voilà. Mais il n'a pas la même valeur que le rituel de l'initiation chrétienne des adultes. Alors, je vous fais remarquer une chose de plus, que tous ces rituels ont été rédigés, ces trois rituels, à la suite du Concile Vatican II. À la suite du Concile Vatican II. Et je vais vous donner quelques outils, quelques codes pour comprendre quelles sont ces dates, quels sont ces numéros, juste pour que vous retrouviez. Après le titre de chaque rituel, j'ai mis des dates. La première date, généralement la plus ancienne, dans le cas précis, là, c'est 72, est la date de promulgation, et puis je reviendrai sur cette question, de promulgation du rituel de l'initiation chrétienne des adultes en langue latine. En langue latine. Et puis, les autres dates sont des dates qui marquent la promulgation de l'adaptation et de la traduction et de l'adaptation de ce même rituel en langue latine, mais en langue francophone, en langue française. Ce sont les dates de promulgation du rituel de l'initiation chrétienne des adultes destinées à des pays francophones. Alors, je peux déjà vous dire comment ça se fait, comment s'est mis en œuvre la rédaction des rituels. Je le prends à partir de l'exemple du rituel de l'initiation chrétienne des adultes. Vous voyez là, la date 72 vous fait penser qu'on a dû attendre, entre guillemets, du temps entre la fin du concile et 72. Le concile termine en 65, 64-65, et du coup, c'est entre cette fin du concile et cette date qu'on va effectivement promulguer le rituel. Et dans l'Église catholique, la langue qui fait foi, la langue officielle, c'est le latin. C'est le propre de la tradition latine en Occident. Mais une fois que le texte a été rédigé en langue latine, qu'est-ce qu'on fait? On l'envoie aux différentes commissions, aux différentes conférences épiscopales dans le monde entier. Et donc, chaque conférence épiscopale met en œuvre une commission qui va traduire et adapter le rituel. D'où ces dates de promulgation en France. C'est pareil pour le baptême des petits-enfants, première édition en latine en 69, et les autres éditions en traduction française et adaptation française en 84. Et pour la confirmation, en 71, la rédaction en langue latine, et puis 76, notamment la deuxième édition, pour l'adaptation en langue française. Donc, vous voyez que ce ne sont pas que des dates, je voudrais insister sur ça, c'est le travail de toute l'Église. Ces rituels sont le fruit d'un travail de réflexion sur les pratique d'initiation du temps long de l'Église. Et donc, nous allons reconnaître dans le rituel d'initiation chrétienne des adultes la même structure que nous avons évoquée en parlant des traditions de l'Église ancienne. Dernière remarque, jamais dans l'histoire de l'Église catholique a existé un rituel du baptême des petits-enfants. Ça va un peu vous surprendre, ça. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est que jamais, on le reprendra cette idée quand nous parlerons du rituel en tant que tel, mais jamais on avait pensé que le rituel devait être destiné à des petits-enfants. On baptisait avec un rituel. Je rassure tous ceux qui ont été baptisés avant le concile dont je fais partie, notre baptême est bien valide. Mais on nous baptisait paradoxalement avec des rites condensés qu'on avait condensés depuis toute l'histoire, depuis un millénaire, plus qu'un millénaire, qui étaient destinés à des adultes en vérité. On nous demandait de répondre, mais on ne pouvait pas répondre. Donc voilà. Donc ça, c'est vraiment quelque chose de nouveau dans l'Église catholique. Ça aussi, en vérité, mais on a connu des rites de l'initiation. Puis, autre chose à remarquer, les numéros, je mets des numéros parce que vous le verrez tout de suite, là, tout rituel est numéroté dans ces paragraphes pour pouvoir y renvoyer facilement. Voilà, donc pour pouvoir y faire référence. Chaque paragraphe est numéroté, ça permet une plus grande liberté pour pouvoir le citer. Alors, je vais vous le montrer quand même, ce rituel. Alors, justement, ça, c'est le rituel de l'initiation, où est-ce que vous le voyez, voilà, le rituel d'initiation chrétienne des adultes, hein, donc c'est un rituel qui prend cette allure-là, puis je vous montrerai j'ai scanné la partie des notes pastorales, doctrinales et pastorales. Alors oui, on m'a demandé cet après-midi, mais mince, on a dû attendre de 72 à 96 pour faire le rituel final. Eh bien oui, là aussi, on a baptisé entre-temps quand même, hein, entre 72 et 96 des adultes, mais on avait employé un rituel provisoire que vous voyez là, qui était en 5 fascicules, très moins solide, je dirais, du point de vue même de sa matière. Le rituel du baptême des petits-enfants est celui-ci, en langue française, vous le voyez, il tient là, si je l'ouvre, vous voyez, donc je vous dirai comment est fait un rituel, et celui de la confirmation, il est là. Ces rituels sont très importants. Pourquoi? Vous voyez, tout rituel, nous les considérerons de cette manière, comporte toujours des notes doctrinales et pastorales, c'est-à-dire des notes qui n'indiquent pas quels sont les rites à faire, mais qui essayent de faire entrer dans l'intelligence du sacrement. Voyez? Et donc, je dis toujours, pour quelqu'un, je sais que parmi vous, il y en a qui sont chargés de former ou d'accompagner des catéchumènes. Si vous voulez rentrer dans l'intelligence de cet accompagnement, de cette initiation, n'hésitez pas à faire référence au rituel en tant que tel. C'est vraiment un lieu catéchétique par excellence. Et donc, les notes doctrinales et pastorales, assez souvent, disent quelle est la théologie du sacrement. Et nous allons les lire ensemble, justement, tout de suite, hein, là. Et puis, après ces notes, on va dérouler la célébration en tant que telle. On va indiquer quels sont les moments, quels sont les lieux, quels sont les rites, les gestes, les prières à faire. Voilà. C'est pareil pour les autres sacrements, les autres rituels. On regardera d'abord les notes pastorales et doctrinales, et puis la célébration, et ainsi pour la confirmation. Et donc, je vous propose maintenant d'aller voir justement les notes doctrinales et pastorales de l'initiation chrétienne des adultes que vous devriez avoir sous les yeux. Donc là, je ne fais que numériser une partie du rituel que je vous ai montré. Donc, c'est ce rituel-là que nous allons ouvrir, je dirais. Donc, celui-ci. Et donc, voilà. Ce texte est assez important. Pourquoi je vous ai mis ces notes doctrinales et pastorales là? Parce qu'elles sont valables pour les trois rituels et pour le baptême des petits-enfants et pour la confirmation. Après, chaque rituel aura des notes spécifiques à ce qu'il traite. Il y aura des notes spécifiques pour les adultes, des notes spécifiques pour les petits-enfants, des notes spécifiques pour la confirmation. Mais là, nous avons une présentation générale de ce qu'est l'initiation chrétienne. Et là, d'emblée, voyez, le numéro 1 de ces notes disent, nous donne une sorte de définition générale. Par les sacrements de l'initiation chrétienne, nous avons là l'expression qui était désormais consacrée à ces trois sacrements, les hommes, on pourrait, s'il fallait les réécrire, dire les hommes et les femmes délivrés de la puissance des ténèbres, morts avec le Christ, ensevelis avec lui et ressuscités avec lui, reçoivent l'esprit d'adoption des fils et célèbrent avec tout le peuple de Dieu le mémorial de la mort et de la résurrection du Seigneur. Vous voyez, là derrière ces expressions-là, nous avons les trois sacrements de l'initiation. Délivrés de la puissance des ténèbres, morts avec le Christ, ensevelis et ressuscités avec lui, c'est le baptême. Reçoivent l'esprit d'adoption de fils, c'est la confirmation. Et célèbre avec le peuple de Dieu le mémorial de la mort et de la résurrection, c'est l'Eucharistie. Donc, vous voyez, il y a là l'ensemble de cette initiation. Ce qui fait dire à certains théologiens, notamment Louis-Marie Chauvet, est-ce qu'il ne s'agirait pas là d'un seul sacrement décliné par trois gestes ? L'eau, l'huile et le pain eucharistique, voyez, qui initient à la vie chrétienne. Et puis, donc là, il va spécifier, il va reprendre, vous voyez, même il y a un caractère gras, chaque moment sacramentel ou chaque geste de cette initiation. On caractérise le baptême comme le sacrement qui permet de devenir un seul corps dans le Christ pour former le peuple de Dieu. On revient à une théologie très ancienne que nous avons retrouvée dans les Actes des Apôtres. Le baptême est donné pour le pardon de tous les péchés. On choisit la liberté de contraire le mal, de ne pas adhérer au mal, mais d'adhérer au Christ, et on naît de l'eau et de l'Esprit Saint. Donc là, il y a à nouveau une théologie plutôt johannique, liée à l'évangile de Jean, et on devient par là une création nouvelle. Donc il y a tout à fait une théologie biblique autour de cette idée du baptême. Et la confirmation, elle, est caractérisée comme étant la marque du don de l'Esprit. Mais vous voyez, on retrouve l'idée, l'autre thème de la configuration au Christ. On est configuré au Christ, on devient d'autres Christ, et on est rempli de l'Esprit Saint pour pouvoir rendre témoignage. C'est le mouvement de la Pentecôte, si vous voulez. Voilà. Et puis, l'assemblée eucharistique, l'Eucharistie, elle est caractérisée par le fait qu'on mange la chair et on boit le sang du Fils de l'homme en vue de la vie éternelle. L'Eucharistie nous ouvre déjà à ce que nous vivrons dans l'éternité. Et naturellement, elle nous invite à nous offrir avec le Christ. Il n'y a pas que le mouvement d'offrande du Christ dont nous faisons mémoire, mais il y a un autre mouvement d'offrande par le Christ. Nous verrons quand nous parlerons de l'Eucharistie, c'est fondamental. Le « faites ceci à mémoire de moi », ce n'est pas « faites un geste », mais « faites ce que j'ai fait », c'est-à-dire « donnez-vous, offrez-vous ». Voilà. Et enfin, regardez la partie finale de cette introduction, de ce premier numéro. C'est ainsi que les trois sacrements de l'initiation chrétienne conduisent ensemble à leur pleine stature les fidèles qui exercent dans l'Église et dans le monde la mission de tout le peuple chrétien. C'est fondamental, ça. Je le dis de manière un peu provoquant, ne laissons pas la mission aux prêtres et aux évêques et aux diacres. La mission est destinée aux baptisés. Tout baptisé est appelé à la mission. C'est ça que veut dire ce paragraphe. C'est que les sacrements de l'initiation, quand nous devenons chrétiens, justement, ces sacrements inaugurent notre charge missionnaire. Nous sommes appelés par notre vie. Il ne faut pas non plus penser qu'on va faire des grandes choses, mais justement, vivre le quotidien est une grande chose. Montrer l'épaisseur du quotidien est une grande chose. Et puis là, on va décliner, on va donner des définitions, on pourrait dire, on va rentrer dans l'intelligence de ce qu'est le baptême. De ce qu'est le baptême. Entendu, me semble-t-il, justement comme étant un mot englobant de l'expérience d'initiation, et donc qui comprend la confirmation et l'Eucharistie. Alors, on dit la dignité du baptême, et donc on dit bien il est la porte de la vie du royaume, le premier sacrement de la loi nouvelle. Rappelons-nous que c'est le geste auquel Jésus demande, justement, comme on va le voir, hein. C'est Jésus qui ordonne aux apôtres « Allez de toutes les nations, faites des disciples, baptisez-les ». Donc, je souligne toujours, et il faut que nous en prenions compte, assez souvent nous pensons que le seul commandement de Jésus soit « Faites ceci à mémoire de moi regardant, concernant l'Eucharistie », mais il y en a un autre, hein. C'est « Allez donc enseigner et baptiser ». Donc, il y a une volonté du Christ lui-même d'envoyer ses apôtres à annoncer la bonne nouvelle et de le signifier, de signifier cette adhésion par le baptême au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Et donc, après, du coup, on dira, le baptême, c'est en ce sens-là qu'il est le sacrement de la foi, l'entrée dans la vie, dans l'Église universelle, une naissance à la vie de Dieu, une participation à la mort et à la résurrection du Christ. Donc là, ce sont des expressions et des perceptions qui remontent à la théologie la plus ancienne de l'Église, depuis les premiers temps de l'Église. Sacrement de la foi, pourquoi effectivement le baptême est une réponse à l'appel de l'Évangile, et donc à cet appel on répond par une adhésion de la foi, là où foi veut dire ne pensez pas au contenu de la foi, pensez à la confiance que l'on fait à Dieu. Le mot foi, le mot confiance a dedans le mot foi, on fait foi à celui qui nous a appelés, et donc et il permet effectivement de vivre, dit le texte, ce pacte de la nouvelle alliance où il nous permet de confirmer ce pacte-là de la nouvelle alliance. C'est une entrée dans l'Église universelle parce qu'effectivement, comme dit le texte, l'état du baptisé est acquis une fois pour toutes. Je cite une fois de plus, c'est un sacrement avec la confirmation qui n'est pas réitérée. Et là, par exemple, c'est assez intéressant, c'est comme ça qu'on interprète la confirmation, c'est-à-dire, quelque part, là, il dit qu'il y a le Saint-Crème, l'onction du Saint-Crème, donc la confirmation, celle, cette entrée dans l'Église universelle. Et alors, là, nous avons une petite remarque fondamentale pour l'écuménisme dont nous devrions être conscients, même si pas tous les groupes des églises le respectent, mais on dit ceci, il n'est pas permis à qui que ce soit de le réitérer, le baptême, donc, quand il a été célébré validement, même par des frères séparés. Donc, si jamais un protestant demandait à devenir catholique, on ne va pas le rebaptiser. Et vice-versa, si un catholique veut adhérer à la confession protestante, à l'Église protestante, et rentrer dans l'Église protestante, il ne sera pas rebaptisé. Non plus chez les orthodoxes. Après cela, il y a des exceptions. On me faisait remarquer que certains groupes évangéliques, volontiers rebaptisent. Voilà. Comme aussi les moines du Mont Athos, orthodoxes, volontiers, ils retiennent que le baptême des catholiques n'est pas valide. Voilà. Mais il y a une entente écuménique qui permet à toutes les églises de reconnaître le baptême de l'autre. Voilà. Naissance à la vie de Dieu, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, c'est-à-dire le baptême inaugure quelque chose. Et quelle plus belle inauguration que celle d'être fils de Dieu. Donc là, rappelons-nous toujours, fils de Dieu, c'est pas par moi-même, mais c'est grâce à la révélation du Christ qui lui-même s'est fait homme et qui nous a montré cette filiation par toute sa vie. Et donc, il me semble que c'est de cette manière qu'il faut interpréter le baptême du Christ lui-même, le fait que le Christ va au baptême de Jean-Baptiste. C'est pour inaugurer et nous montrer cette voie de la filiation. Et enfin, autre thème assez important, la participation à la mort et à la résurrection du Christ. C'est un thème tout à fait paulinien. On participe à la mort et la résurrection du Christ par le baptême. C'est-à-dire, pour le dire à la manière des pères de l'Église, on imite cette mort et cette résurrection que le Christ lui-même a vécu en premier. On adhère à ce que le Christ a vécu. D'où cette conséquence rituelle importante qui est soulignée là, regardez. C'est pourquoi la joie de la résurrection doit se manifester quand on célèbre le baptême, surtout à la veillée pascale ou le dimanche. On ne célèbre pas le baptême les autres jours de la semaine. Pourquoi on le célèbre le dimanche? Pourquoi on le célèbre la nuit pascale? C'est pour souligner que cela est dans la foulée de la résurrection du Christ. On fait vivre ce baptême de celui qui le vit dans l'expérience pascale du Christ lui-même. Donc, première partie, vous l'avez compris, très théologique, qui permet effectivement de saisir, tant qu'on le peut, le mystère des sacrements d'initiation et donc du baptême. Et puis, deuxième point, on parle des fonctions et des ministères. Qui est appelé à exercer des fonctions et des ministères en vue de cette initiation? Et là, vous voyez, on commence par, paradoxalement, pas par l'évêque, mais par le peuple de Dieu. Tout le peuple de Dieu, c'est-à-dire l'Église qui transmet et nourrit la foi reçue des apôtres, c'est à elle que revient en premier lieu le soin de préparer au baptême et de former les chrétiens. J'insiste, on pourra en parler la prochaine fois, mais il me semble qu'assez souvent dans nos pratiques pastorales et dans nos propres paroisses, il y a un déficit de présence de la communauté paroissiale, de la communauté ecclésiale. Ce n'est pas une caricature, ce que nous disions, je crois, la dernière fois, mais il est vrai qu'assez souvent, quand un couple amène son bébé pour qu'il soit baptisé, le présente à la fin d'une messe ou au commencement d'une messe, je ne sais pas, mais assez souvent, les gens se sauvent le plus tôt possible pour ne pas continuer la messe ou pour ne pas rester dans l'église. Alors, je trouve ça assez lamentable. Ou bien quand on a des moments, des étapes de catéchumène au cours du carême, assez souvent, il n'y a pas une présence comme il se devrait de toute l'Église locale. Mais là, le rituel insiste beaucoup sur le fait que les premières fonctions sont celles du peuple de Dieu lui-même. Et puis, on cite les parrains et les marraines, l'importance des parrains et des marraines, surtout pour des adultes. Nous verrons, pour le rituel du baptême des petits-enfants, c'est un peu différent. Nous le verrons la prochaine fois. Et puis donc, les autres ministres, et c'est là qu'on va citer les évêques, les pasteurs, les autres prêtres et les diacres. Voilà. Donc, il y a là, et puis on termine par, regardez, quand il n'y a pas ni un prêtre, ni un diacre, ni un évêque qui peut baptiser, tout fidèle peut baptiser en cas de besoin. Voilà. Je voudrais maintenant vous montrer justement la structure du rituel de l'initiation. Et là, vous montrer le génie propre. Et si nous comprenons le sens de cette structure de l'initiation telle que le rituel d'initiation chrétienne des adultes nous le présente, nous avons compris le sens pas seulement des autres rituels du baptême des petits-enfants et de la confirmation, mais aussi, je pense, la dynamique sacramentelle. Qu'est-ce qu'elle nous dit, ce rituel? Que le sacrement n'est pas quelque chose que l'on donne comme un geste magique, une fois pour toutes, dans une seule séance, comme c'était magique, vous voyez. Mais c'est de l'ordre d'un processus. Cela demande du temps et demande des moments privilégiés dans cette initiation. Quand je dis processus, je veux dire quelque chose qui se poursuit, qui est repris, qui est marqué, qui est repensé, qui est conduit, vous voyez. Et donc, effectivement, vous le voyez tout de suite, ce processus est marqué par l'alternance de temps et d'étapes. Le temps dit quelque chose qui se prolonge. L'étape est un jour précis, à une heure précise, dans un lieu précis. Vous voyez, c'est quelque chose de ponctuel. Là aussi, on ne va pas répéter cette étape plusieurs fois. Il n'y en a qu'une. Comme il n'y a qu'une seule deuxième étape et comme il n'y a qu'une seule troisième étape, vous voyez, alors que certains rites des temps peuvent être répétés plusieurs fois. Mais j'essaie de vous le décliner. Le premier temps est celui qu'on appelle de la première évangélisation. Alors, le texte, le rituel dit, il y a un accueil que l'on fait à ceux qui demandent le baptême, mais sans rite particulier. C'est très important, cette remarque. Pourquoi? Parce qu'un rite lie quelqu'un. Et si on fait un rite, on l'engage tout de suite. Vous voyez? Donc, je dirais presque que quelqu'un qu'on accompagne en catéchuménat et avec lequel on prend les premiers contacts, la chose manière...
Attention à la marche, en descendant du...
La meilleure manière pour pouvoir l'initier, c'est de l'inviter à un dîner ou à un déjeuner, vous voyez. C'est la manière meilleure pour l'accueillir. On ne va pas faire des rites. On ne va pas lui demander de faire un signe de croix. On ne lui demande pas de dire notre Père, vous voyez. Il n'y a rien qui doit le lier. Il doit se sentir libre de cette grâce qu'il appelle. Mais par contre, la première étape, le moment où il faut marquer le pas qui permet à celui qui demande d'être baptisé de rentrer dans une démarche d'initiation, c'est l'entrée en catéchuménat. Je vous rappelle rapidement que catéchuménat vient du mot catéchumène et en grec, catéchumène veut dire faire retentir dans l'oreille. Faire résonner dans l'oreille, c'est-à-dire la catéchèse, ce que l'on dit. Le catéchumène est celui qui écoute la catéchèse. Et bien, dans cette étape, regardez, alors là, du coup, on marque rituellement cette entrée. On le marque par un dialogue, on reconnaît la personne qui vient, et puis on a une première adhésion initiale. On va signer du front et des sens celui qui demande à entrer dans l'Église. Là, c'est extraordinaire, si vous y pensez. Par ce rite, on signe le front, les oreilles, les yeux, les oreilles, la bouche, les épaules, voilà. Donc, on marque tout le corps, comme si on disait « la grâce t'accueille ». La grâce est déjà là pour toi. Hein? Elle te couvre. Eh bien, après, du coup, cela permet au catéchumène, à celui qui va devenir catéchumène, d'entrer dans l'Église. Il y a la liturgie de la parole, il y a la remise du livre des évangiles. Parfois, on lui remet une croix, hein, une croix, et il y a une prière pour les catéchumènes. Et c'est là qu'on commence le chemin du catéchumène, de celui qui va s'approcher du baptême, par un temps relativement assez long, parfois un an, parfois deux. Ça dépend du discernement qu'on a. On a parlé de l'importance du discernement. Et là, le travail et le discernement des accompagnateurs est très important. Hein. C'est là que les accompagnateurs sont des initiateurs. Hein, voilà. Et ce temps est peut-être marqué par des moments de célébration de la parole de Dieu, par des moments d'exorcisme ou de de bénédiction des catéchumènes, et ou par des rites d'onction, qui n'est pas l'onction du Saint-Crème, hein, on m'a posé la question cet après-midi, et l'onction de l'huile des catéchumènes. L'onction, ce n'est pas pour oindre, c'est pour marquer corporellement à nouveau cette idée que Dieu soutient la personne qui est en train de s'initier à la vie chrétienne. La deuxième étape correspond tout le temps avec le premier dimanche du carême. Et c'est la célébration de l'appel décisif. C'est ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire l'évêque, en ayant reçu la demande du catéchumène, choisit le catéchumène et inscrit son nom sur un registre pour qu'il soit baptisé à Pâques, à la Pâques suivante. Et donc, on a à nouveau un appel nominal, une interrogation, la réponse des candidats, l'inscription du nom, l'admission à la dernière initiation vers le baptême, une prière litanique. Et puis, on a, après cette étape, pendant le carême, voyez, temps de la purification et de l'illumination, veut dire cela, c'est le temps du carême, purification, parce qu'on se purifie, on se débarrasse de tout ce qui peut encombrer la vie. Il n'y a pas que les catéchumènes, il y a aussi les chrétiens. Dans la période du carême, hein, on accompagne le carême, nous nous purifions avec eux, pour le dire la manière de Saint Justin. Et illumination, parce que ce temps conduit à l'illumination du baptême, c'est-à-dire à la grâce du baptême. Et là, ce temps est marqué notamment de manière plus précise les trois derniers dimanches du carême, donc la troisième, la quatrième et le cinquième dimanche de carême, par les dimanches qu'on appelle des scrutins. Ne pensez pas au scrutin politique. Scrutin, c'est un mot, ça vient du latin, ça veut dire observer attentivement, discerner, scruter. Vous savez, les psaumes ont cette phrase, scrute-moi mon Dieu et tu éprouveras mon cœur. Donc tu vois, regarde-moi. La volonté que Dieu discerne sur le désir, le vrai désir du catéchumène. Et donc, vous voyez, on fait revivre, je dirais, la parole de Dieu fait revivre aux catéchumènes ce qu'ils sont réellement. Tantôt la Samaritaine ayant besoin de boire l'eau, tantôt l'aveugle qui ne voit pas, tantôt Lazare qui doit ressusciter. Ils, eux-mêmes sont ceux-là. Et donc, première grand, cela est très important. Et puis, on peut avoir des traditions. Qu'est-ce que sont ces traditions? Transmettre quelque chose. Prenez le mot tradition comme transmettre quelque chose. On transmet le symbole de la foi, c'est-à-dire le credo, et on transmet l'oraison dominicale, le Notre Père. On leur apprend à croire et à prier. Et puis, on a les derniers rites en s'approchant du baptême, le rite de l'ouverture, Ephphata, c'est ce nom que Jésus, qu'on retrouve dans les évangiles, hein, Jésus qui ouvre les yeux et la bouche du surmoué, et donc on ouvre les sens du catéchumène pour qu'il puisse aller vers le baptême. Et puis, la célébration du baptême avec, vous voyez, il commence par la litanie des saints. Il y a des témoins avant qui nous précèdent. Il y a la bénédiction de l'eau, la rénonciation au mal, l'adhésion, la profession de foi, l'adhésion au Christ, le rite de l'eau, c'est-à-dire l'immersion. Alors, ne tenez pas compte de cela, je vous expliquerai pourquoi il est là. C'est dans le cas où le néophyte, le baptisé, ne voudrait pas être confirmé tout de suite, ça peut arriver. Hein. S'il n'est pas confirmé tout de suite, on lui fait une onction, mais qui n'est pas la confirmation. Puis on a la remise du vêtement blanc, la remise de la lumière, vêtement blanc, lumière, disant la nouvelle vie. Et puis la célébration de la confirmation et la célébration de l'Eucharistie. Et ce temps et ce rituel terminent par le temps de la mystagogie. Mystagogie, je vais fermer mystagogie qui veut dire, c'est un nom grec à nouveau, hein, on reprend ça de la tradition ancienne, il y a dedans le mot mystère plus le mot conduire. Je vais vous le marquer là dans le dialogue commun. Must, mysterion, mystère, agogeo, conduire en grec, conduire au mystère. Donc le temps de la mystagogie est ce temps dans lequel on demande aux nouveaux baptisés de venir, de participer à l'Eucharistie pendant le temps pascal pour qu'ils puissent rentrer davantage dans ce qu'ils ont vécu, voyez, rentrer dans l'intelligence de ce qu'ils ont vécu avec la communauté paroissiale. J'insiste beaucoup, hein, l'Eucharistie dominicale est celle qui est célébrée au cours du dimanche. Je me tais et je vous laisse la parole pour des questions de compréhension.
Oui, voilà. Je voulais savoir l'appel décisif, à quel moment il est apparu?
L'appel décisif est apparu en gros au même moment de celui que nous employons, que nous faisons aujourd'hui, c'est-à-dire en début du carême. Il est apparu au IVe siècle, quand les catéchumènes étaient trop importants. Il y avait 300, 400, 500 catéchumènes dans une seule ville, hein, et donc il fallait discerner. Et donc on commence à leur demander d'inscrire leur nom pour participer au début du carême. Je me tais.
Question de Dominique.
Oui, Dominique.
La confirmation.
Oui.
Qui est marquée par le don de l'esprit.
Oui.
Est-ce que c'est pas quand même un peu un problème parce que l'esprit souffle où il veut, quand il veut,
oui.
Avant, après, avant le baptême, après le baptême, après l'Eucharistie, n'importe quand. Mm-hmm.
Oui, nous l'avons vu, entre autres, Dominique, votre remarque me renvoie à ce que nous avons vu dans les Actes des Apôtres. Déjà, dans les Actes des Apôtres, on a voulu garder des textes qui se contredisaient. Parfois, Pierre devait courir pour aller confirmer l'esprit qui était déjà descendu chez quelqu'un, vous voyez. Donc, c'est assez intéressant. Ça veut dire que déjà, on veut faire comprendre que l'esprit souffle où il veut. Mais en même temps, c'est vrai que nous, en le regardant du côté des personnes que nous sommes, nous avons besoin de marquer cela, d'être conscients que cela advient à un moment précis. Le rite est là pour dire ça. Ce qui s'accomplit en toi est accompli. Naturellement, il y a une prise de conscience progressive de cela, avant ou après ou pendant. Mais le geste de confirmation, en vérité, la vraie question que vous posez, c'est pourquoi, justement, est-ce que c'est au baptême, est-ce que c'est à la confirmation qu'on reçoit l'Esprit? Oui, en vérité, c'est dans les deux moments. Il se décline de manière différente, mais l'Esprit est donné déjà tout entier au baptême. il est plus évident quand les deux moments sont rattachés, comme on vient de le voir, quand après le baptême, il y a tout de suite la confirmation. Là, il est clair, le baptême procure l'esprit, le don de l'esprit, donne le don de l'esprit. Il est moins évident quand il faut attendre entre un baptême reçu quand on est tout petit, reprendre le confirmation. Vous voyez, ça, c'est plus compliqué.
Oui, même pour un baptême d'adulte, un catéchumène, oui. L'esprit...
L'esprit était déjà là, je suis convaincu. Mais, je le répète, nous avons besoin de le marquer dans notre corps. Il faut le signifier. Vous savez, c'est vraiment de l'ordre, c'est tout bêtement de l'ordre d'un besoin rituel. Nous avons besoin de rites pour marquer quelque chose. C'est comme quand je me brouille avec quelqu'un, je pourrais dire, mais je lui ai pardonné. Mais j'ai besoin de lui dire, j'ai besoin de lui écrire pour lui dire, j'ai besoin de lui tendre la main. Vous voyez? Il ne suffit pas de dire, je pense que je l'ai pardonné ou il sait que je l'ai pardonné. C'est pareil pour ces aspects. On a besoin de marquer quelque chose qui... ça, c'est propre au christianisme. Notre corps est le seul intermédiaire que nous avons pour être en relation à Dieu. Notre foi n'est pas cérébrale, elle est corporelle.
Merci.
Est-ce qu'il y aurait d'autres questions? Alors, je terminerai avec cette suggestion que je vous laisse à méditer. Ce que nous avons vu, c'est-à-dire la structuration de l'initiation chrétienne telle que nous l'avons vue dans le rituel de l'initiation chrétienne des adultes, je vous disais en commençant, elle est très significative pour comprendre le sens de tout sacrement. Le sacrement, je le répète, n'est pas que le moment sacrement. En cela, Dominique, vous avez raison. Le sacrement s'étale dans la vie. Le sacrement, la grâce de Dieu qui est donnée par le sacrement nous précède et nous poursuit. Nous suit là où nous sommes, vous voyez. Et donc, bien sûr, il y a un moment spécifique que nous avons, je répète, dont nous avons besoin parce que nous sommes faits de chair et os. Donc nous avons besoin de sentir que cela est vraiment devenu. Mais en vérité, la grâce déborde. Nous devons éviter de penser les sacrements comme quelque chose de trop ponctuel. Vous voyez? Sinon, on risque de perdre de vue que la grâce de Dieu nous précède, nous poursuit, nous suit là où nous sommes. Vous voyez? Et le rituel de l'initiation chrétienne des adultes nous apprend cela. Il faut du temps, il faut des moments, il faut des remises en cause. C'est comme une vie, c'est comme une vie. Je dirais presque, est-ce que ça vous arrive jamais de remercier Dieu? Alors, entendez-moi bien, pour vos crises de foi, pas le foi qui est là, mais la foi. J'espère que vous avez eu des moments où vous n'avez pas cru, où vous avez eu des doutes. Mais rendez grâce à Dieu, parce que justement, sont les occasions pour nous remettre en route, pour comprendre la gratuité de ce qui nous est donné. Et je pense que ceux qui accompagnent la catéchumène savent bien ça. C'est-à-dire qu'on pourrait presque dire que l'initiation d'un catéchumène se déroule de crise en crise, vous voyez. C'est de compréhension en compréhension, de doute en doute. Et c'est ça qui fait la foi chrétienne. Ce n'est pas pour rien que les évangiles de la résurrection nous ont laissé cette page magnifique de Thomas qui ne croit pas. Thomas ne croit pas au ressuscité. Et il faut du temps. L'Évangile nous disait, il a fallu une semaine pour que la grâce lui soit donnée sans que lui il s'attende. Lui, il n'y croyait pas. Donc, cette dynamique, nous la pouvons la percevoir, la vivre dans la vie sacramentelle. Voilà. Et en vous disant cela, je vous souhaite une très bonne nuit. Nous avons un corps, nous avons besoin de dormir.
Merci beaucoup.
Merci beaucoup.
Je vous dis à mardi prochain.
Oui.
À mardi prochain.
Mardi.
Oui, au revoir.
Merci, bonne soirée.
Portez-vous bien.
Merci.
Portez-vous bien.
Au revoir.